RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
À quelques jours du premier tour des élections législatives en France qui aura lieu ce dimanche, nous avons fait le choix ce matin et pendant 2 heures, au milieu de tous les discours politiques, de donner la parole aux associations chrétiennes engagées sur le terrain. Elles ne sont ni naïves, ni idéalistes non plus, et nous sommes convaincus qu'elles peuvent partager avec nous leur combat pour la fraternité et la solidarité. Une émission un peu spéciale que j'ai le plaisir de présenter avec Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, c'est une période où les discours agitent beaucoup d'idées, parfois aussi de peur. Alors en tant que journaliste, questionner les programmes politiques, c'est aussi les confronter aux expériences concrètes. Alors il ne s'agit en aucun cas ici d'opposer les associations politiques, qui sont d'ailleurs appelées à travailler ensemble, mais au contraire d'essayer de comprendre les enjeux actuels. Qu'est-ce qui est vital pour que l'action des associations perdure, s'améliore? Comment rester libre, dépasser les freins, saisir les opportunités pour porter des initiatives? Et puis, que constatent nos invités lorsqu'ils observent les effets des décisions politiques sur leurs actions?
Une émission construite autour de 4 grands thèmes que sont l'écologie, la justice sociale, la famille et les exilés. Et sur tous ces sujets, vous avez la parole pour réagir. Nous dire en quoi ces thèmes vous concernent à l'aube de ces élections. Vous êtes vous-même investi sur le terrain au sein d'une association. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous avez peut-être bénéficié du soutien matériel de votre député? Vous venez réagir au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et on commence, Madeleine, avec notre première thématique qui concerne la migration. C'était le sujet le plus important aux yeux des Français pour les élections européennes. Souvenez-vous des élections européennes. C'est aussi une thématique qui fait énormément débat.
Oui, les élections européennes balayées rapidement par la proposition des législatives. Alors Melchior, l'immigration, oui, c'est au cœur des discours, des échanges sur les plateaux. Et pour en parler, nous recevons 3 invités. Bonjour Vincent Picard.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes engagée au sein de l'association internationale de Saint-Égidio France dès le début. C'est une organisation engagée dans la lutte contre toutes les formes de pauvreté dans 70 pays. Et c'est aussi une organisation engagée dans la consolidation de la paix. Cette association est à l'origine des couloirs humanitaires qui permettent aux réfugiés d'arriver par une voie légale. On y reviendra. Avec vous également Fanelli et Carré-Comte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la CIMAD, qui est une association engagée auprès des personnes migrantes et réfugiées dans leurs droits et leur dignité. Avec nous également ce matin, Audrey Mingui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée du Secours catholique d'Isère.
Merci à l'équipe de RCF à Grenoble qui vous accueille ce matin, Audrey Mingui, et également à l'équipe de Radio Notre-Dame à Paris. Alors sur cette thématique de l'accueil des migrants, vous réagissez, je vous l'ai dit tout à l'heure, au 04 72 38 20 20 04 72 38 20 23. Une question pour vous, Fanélie Carré-Comte, pour commencer, comment vous vivez ce moment?
Bah écoutez, ce moment de débat politique et des chances électorales à venir, on le vit avec beaucoup d'inquiétude dans notre association pour les 2300 bénévoles et les 145 salariés qui sont investis aujourd'hui à la CIMAD, mais encore plus évidemment pour les personnes migrantes, les personnes réfugiées, les personnes sans papiers qu'on accompagne au quotidien à travers nos différentes activités. Ce qui se passe aujourd'hui ne vient pas de nulle part, hein, n'est pas nouveau, puisque ça fait quand même des années qu'on a d'une part des discours de stigmatisation, de criminalisation, de fantasmes autour des peurs sur les obsessions migratoires, etc., qui sont déversées dans le débat public et dans le débat politique. Mais il est vrai là, et puis il y a aussi au-delà des discours, hein, des faits, hein, puisque les évolutions législatives ces dernières années, et notamment la dernière loi immigration, enfin pour rappel, hein, c'est 20 lois en 40 ans sur les questions migratoires, avec toujours une logique de restriction continue des droits des personnes migrantes, et la dernière du mois de janvier n'a pas fait exception. Voilà, donc on était déjà dans ce contexte-là. Il est vrai que là se rajoute ce sentiment d'urgence, évidemment, avec cette perspective des élections législatives et le risque qu'on n'a jamais peut-être autant approché de la perspective de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir avec un programme dont on sait que par définition, par essence, par philosophie, il porte en lui le rejet de la différence de l'autre des personnes migrantes avec des conséquences voilà, très très graves que nous craignons aujourd'hui.
Vincent Picard, ces élections précipitées, elles vous font aussi apprécier autrement ce moment. Comment est-ce que vous le vivez?
Non, ben, je partage une même préoccupation, en effet. Hein, et aussi, j'ajouterais une préoccupation pour la myopie qu'engendre un peu ce climat de peur dans lequel on vit. C'est-à-dire, on pouvait lire dans le journal Le Monde, je crois, il y a deux jours, un article titré sur l'oubli, par exemple, de la guerre en Ukraine. On n'en parle plus du tout. On ne parle plus des grands conflits, que ce soit au Soudan, que ce soit même en Terre Sainte, on voit que c'est beaucoup moins couvert. Et on peut dire, mais quel rapport avec l'immigration ou quel rapport avec ce qui se passe en France? Et justement, c'est cette myopie qui est vraiment, vraiment embêtante, parce que la peur génère le repli, on le sait, le repli sur soi, sur ses préoccupations locales ou nationales. Or, tout est lié, comme dit le pape François dans Laudato si, et on voit bien que, par exemple, les phénomènes migratoires sont profondément liés à ces questions internationales. Et il y a un sentiment d'impuissance, et pire encore, un sentiment d'indifférence à tout ce qui se passe ailleurs que sur le palier de notre porte. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel on doit lutter. Et on est toujours, enfin, je sais que dans notre travail quotidien, on est toujours attentif à lier les problématiques locales aux problématiques globales et à ne pas se dire qu'on ne peut rien faire, mais à rester attentif à tout ça.
Audrey Mingui, même question, ce vote qui arrive très vite, les échanges aussi qui se multiplient avec parfois des raccourcis. Comment est-ce que vous vivez ce moment? Est-ce que ça donne lieu aussi au sein de l'association du Secours catholique à des échanges, à des craintes, à des propos qui sont tenus, qui seraient moins ajustés aujourd'hui parce qu'il y a justement, comme l'expliquait Fanélie Carré-Comte, une sorte de sentiment d'urgence et peut-être de raccourcis, oui, en effet.
Alors écoutez, moi ce que je peux observer en Isère, c'est que dans nos accueils, les personnes se rencontrent. Nous avons des bénévoles qui rencontrent des personnes qui peuvent être en situation de migration ou d'exil, mais elles rencontrent avant tout une personne. Et donc je crois que par ces rencontres, par cet accueil, par cet accompagnement, on fait tomber des représentations, des préjugés, et que c'est là où est notre action, notre rôle, et que c'est d'autant plus important en ce moment, dans le contexte actuel qui est très anxiogène, de retourner à ce que nous vivons au Secours catholique et qui montre que la fraternité humaine avec tous nos frères et sœurs migrants est possible, se vit déjà dans plein de lieux en France. Et moi, c'est à ça que je me raccroche aujourd'hui.
Vincent Picard parlait d'une lutte, d'une sorte de résistance pour laisser ouvert justement ces rencontres, ces échanges. Est-ce que vous allez dans son sens?
Oui et non, c'est-à-dire que nous, on est dans la continuité de ce que nous vivons depuis des années. Les personnes en situation de migration sont de plus en plus représentées dans nos accueils parce qu'elles font partie des personnes les plus malmenées en France. Et c'est la mission du Secours catholique d'accueillir inconditionnellement toute personne. Donc c'est vrai qu'on rencontre depuis plus d'une dizaine d'années de plus en plus de migrants. Et donc on est dans la continuité de cet accueil. C'est sûr que le contexte actuel n'aide pas et peut faire ressentir un peu de fébrilité dans certains lieux d'accueil. Mais nos bénévoles vont continuer leur action auprès des personnes, quoi qu'il se passe dans une semaine ou deux.
Fanélie Carré-Comte, est-ce que vous avez le sentiment que sont dits aujourd'hui dans le cadre de cette campagne des mots, des phrases qui sont fausses, qui ne reflètent pas ce que vous rencontrez au quotidien
sur le terrain?
Oula, alors le problème c'est que la liste serait longue, parce que malheureusement, effectivement, les préjugés, les contre-vérités, on en entend depuis encore une fois des mois et des années. On peut parler de la notion, alors on nous parle de submersion migratoire, alors que la réalité est que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on regarde la réalité des migrations internationales, elles se font essentiellement de pays du Sud à pays du Sud, plus qu'aujourd'hui, et qu'on reste sur des éléments qui sont pas du tout de l'ordre de la submersion. Vous avez toutes ce qui a pu être raconté sur les questions de coûts, par exemple, ce qu'on dit beaucoup sur l'aide médicale d'État, qui est ce qu'on entend parmi les poncifs les plus régulièrement répétés sur le coût que ça engendrerait, sans réfléchir à comment est-ce que, au contraire, le fait de pouvoir soigner chaque personne est indispensable pour le bien commun et la santé publique de l'ensemble de la société. Vous avez tous les propos, alors on a entendu des chiffres absolument scandaleux sur l'assimilation entre les criminels, les violeurs et les personnes migrantes. Enfin voilà, la litanie des préjugés, elle est quand même assez impressionnante. Et puis il y a aussi des mots, hein, je pense qu'il faut le dire aussi, qui sont des mots avec enfin une certaine connotation. Enfin voilà, moi je vous cache pas que quand on a entendu le président de la République reprendre le terme immigrationniste pour désigner des programmes, enfin c'est aussi un terme qu'on nous renvoie nous au niveau de nos associations, ça nous inquiète beaucoup, ça nous choque beaucoup parce que ces mots, ces expressions, on pourrait aussi citer le grand remplacement, enfin c'est cette théorie qui n'a aucun sens, d'ailleurs je dis théorie avec plein de guillemets parce qu'il n'y a aucun fondement évidemment scientifique ou rationnel à tout cela, sont aujourd'hui délivrés voilà de manière très libérée dans le discours politique, dans le discours médiatique, et tout ça, même si on essaie de le déconstruire, il y a beaucoup de travail qui sont faits par nos associations, par les chercheurs, sur toute cette démarche de lutte contre les préjugés, on a aussi des difficultés parce que l'ordre de la rationalité n'est pas toujours facile à faire entendre et à être utilisé comme un élément pour convaincre. Et donc, il est vrai que tout ça, malheureusement, fait du mal dans les têtes, dans les discours, dans les opinions. Et donc, il y a vraiment cet enjeu à pouvoir, et d'ailleurs, merci pour nous laisser aussi l'espace médiatique de pouvoir développer dans cette émission aujourd'hui un certain nombre d'autres visions. Voilà, donc on est vraiment effectivement dans ce moment-là. Et c'est vrai que quand on compare à ce qui se passe sur le terrain, parce que on pourrait avoir cette vision d'une France qui serait uniquement la France du rejet, de l'indifférence, de l'agression vis-à-vis de l'autre, etc. Mais ce que nous faisons dans nos associations, ce que nous vivons au quotidien sur le terrain, il n'y a pas que les trois associations évidemment qui sont invitées là, il y a des milliers de bénévoles, des centaines de milliers de bénévoles tous les jours, et c'est aussi ça qui donne de la force de se lever le matin, hein, de penser que voilà, chaque matin, ben, il y a des milliers de personnes qui vont s'engager pour les autres, faire des rencontres, créer sur le terrain des espaces de joie, de rencontres, voilà, d'espérance. Et ben, c'est ça aussi la réalité du monde dans lequel on vit, et ça serait bien qu'on montre davantage cette réalité-là.
Mais Vincent Picard, est-ce que vous comprenez aussi les arguments de ceux qui disent qu'aujourd'hui le droit n'est pas respecté ? Le droit existe pour accueillir justement ces personnes qui viennent de l'étranger, et il y a une peur que ce droit ne soit pas respecté. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
La question du droit, c'est une question à double face, hein, c'est-à-dire qu'il y a le droit à être accueilli, qui existe encore, en effet, il y a le droit des réfugiés, il y a des principes dont la France est porteuse dans son histoire, et ça c'est vrai qu'il y a encore une tradition d'accueil, et en même temps quand on est sur le terrain aux côtés des migrants, des personnes qui demandent le statut de réfugié, eh ben on se rend compte des difficultés du parcours de combattant que c'est, du durcissement sans cesse accentué des règles qui sont mises pour compliquer ces parcours, et cela pour le tort de tout le monde, non seulement des migrants, mais aussi pour de la société tout entière, parce que notre intérêt, c'est que la machine à intégrer, que les liens se fassent. Or, on est souvent confronté à des difficultés. Donc, le droit, c'est une question compliquée, et en même temps, c'est une ressource. En lançant les couloirs humanitaires il y a quelques années, Santé Gidio a quelque part écrit une nouvelle page de droit, créé un nouveau modèle d'accueil. Alors là, c'est pour les réfugiés qui, justement, avant de monter dans les bateaux, on les identifie dans les camps de réfugiés, notamment au Liban, et puis on les fait venir en avion, et on les accepte par une voie légale et sécurisée, parce qu'il y a tous les contrôles qui sont faits, et on a fait venir comme ça des familles, de nombreuses familles, notamment en provenance des conflits en Syrie et en Irak, et elles sont accueillies ici en France et dans d'autres pays européens où il y a Santé Gidio également. Et c'est comme ça, là on est aussi dans le droit, parce que on a pu faire les couloirs humanitaires en dialoguant avec les gouvernements, en signant des protocoles. Alors c'est pas du droit législatif, c'est des accords, mais c'est très important. Et puis même au niveau local, à chaque fois qu'une famille nous la mettons dans un village avec un collectif, une paroisse qui va alors les accueillir au quotidien pendant des années. Et puis on se rend compte que on a besoin aussi des institutions, de la mairie, de cet ensemble constitué qu'est une société démocratique. Et on a souvent des bonnes surprises là également de voir que les portes qui au départ sont parfois réticentes, eh bien, s'ouvrent. Et c'est ça aussi, utiliser le droit, utiliser nos droits et notre liberté de citoyen à agir. Quand on le fait, on se rend compte qu'on a des marges de manœuvre et on peut vraiment agir.
Alors, je vous coupe parce que le droit aussi auquel font référence les candidats, c'est plutôt le droit d'expulser, c'est plutôt le droit d'appliquer une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Ça s'appuie sur des faits divers. D'autres candidats exposent les prisons pleines. Qu'est-ce que vous leur opposez, Fanélie Carré ? Quand on a envie de vous entendre, qu'est-ce que vous dites aussi à cette envie d'appliquer le droit? Alors cette fois-ci, c'est un droit plutôt pour faire une expulsion ou pour en tout cas appliquer...
Oui, pour appliquer la loi.
La loi, voilà.
Oui, alors il y a plusieurs choses par rapport à ça. D'une part, aujourd'hui, ce que nous analysons à la CIMADE, hein, c'est que le gouvernement et certaines politiques publiques qui sont menées aujourd'hui n'agissent pas en application du droit. Je pourrais vous citer plusieurs exemples. Aujourd'hui, on a par exemple sur la question des expulsions, des personnes qui sont aujourd'hui expulsées du territoire hors du cadre légal, c'est-à-dire qu'elles peuvent être en train de faire un recours au tribunal administratif contre leur expulsion et être quand même expulsées par les préfectures. Autre exemple que je voudrais vous citer, vous avez eu la France qui par exemple a été condamnée par la CEDH, la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme, justement pour ne pas, en lui demandant de ne pas expulser des personnes qui risquaient d'être exposées à de la torture ou à un risque pour leur vie dans leur pays d'origine. On a un ministre de l'Intérieur qui a expliqué qu'il assumait que la France ne respecte pas les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ce discours sur le droit, il est à géométrie variable et on a déjà aujourd'hui, et c'est ça qui génère aussi beaucoup de confusion, on a déjà aujourd'hui une remise en cause de l'état de droit. Enfin, on pourrait aussi citer une loi immigration dans laquelle il y avait des mesures dont on savait qu'elles étaient anticonstitutionnelles. Et on nous a quand même dit, le gouvernement et le président de la République, qu'on allait quand même la faire voter et que le Conseil constitutionnel censurerait. Donc il y a toute cette confusion aujourd'hui qui est générée. Après, ensuite, sur les dernières évolutions qui sont mises en œuvre dans la dernière loi immigration, on est en fait sur tout un tas de dispositions qui, en réalité, portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes. Ce que nous disons à la CIMADE, et c'est ça hein, aujourd'hui qui rend, je pense, le débat extrêmement difficile, c'est que pour faire société, pour avoir un socle commun, il faut qu'on se mette d'accord sur des principes de base qui sont les droits fondamentaux. Chaque personne a droit à avoir un toit sur la tête, à la vie privée et familiale, à avoir un entourage, à un hébergement, à la santé, etc. Mmh. Aujourd'hui, dans les politiques publique, il y a un certain nombre de mesures qui sont venues porter atteinte à ça. Vous posez la question des OQTF. Je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui, donc les obligations de quitter le territoire français, il faut expliquer comment elles peuvent être délivrées. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui peuvent se retrouver en situation, elles avaient un titre de séjour, elles veulent renouveler leur titre de séjour qui arrive à expiration, elles demandent un rendez-vous en préfecture pour avoir cette délivrance de renouvellement de titre de séjour, elles n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous puisqu'il y a saturation et impossibilité d'obtenir des rendez-vous, elles se retrouvent sans papier, elles se font contrôler dans les transports en commun, elles se retrouvent en centre de rétention administrative, elles se retrouvent en risque d'expulsion, alors même qu'elles peuvent avoir une famille, des proches, puisque les évolutions législatives ont affaibli toutes les protections contre les expulsions, indépendamment des situations des personnes. Donc c'est ça qui est aujourd'hui en train d'être mis en œuvre. Donc voilà, sur le droit, il faut rappeler un certain nombre de choses. Les personnes ont des droits fondamentaux. Et il faut faire attention au discours à géométrie variable sur le respect des droits.
Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour réagir jusqu'à 9h30, encore pendant quelques minutes, sur cette thématique de la migration. On passera sur un autre sujet tout à l'heure. France nous a rejoint. Bonjour France.
Bonjour.
On vous écoute rapidement si possible.
Oui. Moi, je suis furibonde parce que durant plusieurs années, et ça, c'est pas d'hier, on entend « Venez, 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 la France terre d'accueil, la France terre d'accueil !» Oui, mais qu'est-ce qu'on leur offre ? On leur offre la rue et on leur offre à mendier. On ne leur offre pas du tout ni un toit, ni un travail décent. Ou alors ubérique. J'ai lu « Ubérisation, piège à con ». Je vous le conseille. Vous verrez ce que c'est. Je ne comprends pas qu'on accueille encore des gens venus de l'extérieur, alors qu'en plus de ça, beaucoup de Français de sous sont au chômage et n'arrivent pas à trouver de travail. Pourquoi encore on nous vante la France terre d'accueil alors qu'on est plein à craquer ?
Merci.
On n'en peut plus, on déborde.
Merci beaucoup, France, et son franc-parler, hein, une auditrice fidèle de cette émission. Ça permet d'entendre tous les avis, c'est vraiment très important pour nous, Madeleine, on le rappelle dans cette émission, je pense, donc j'agis, tout le monde a la parole.
Oui, c'est une colère qu'on entend, c'est une colère
exactement,
qui existe.
Exactement, et France n'est peut-être pas la seule à penser ça. Je me tourne vers vous, Audrey Minguy. Est-ce que France a la raison quand elle dit plutôt qu'on accueille beaucoup de personnes et qu'on ne peut pas vraiment les accueillir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire on ne peut pas bien les loger, bien les nourrir ou leur donner du travail?
Alors écoutez, moi ce que j'observe en Isère dans nos accueils, là, les endroits où nos bénévoles accueillent des personnes, c'est que quand on rencontre une personne, qu'on comprend son parcours, son histoire, ce qu'elle a vécu, c'est tout naturellement qu'on souhaite qu'elle puisse vivre en France, qu'elle puisse travailler, contribuer à la société, qu'elle puisse fonder une famille et que du coup... En effet, cette colère qu'a pu exprimer France, qu'on peut entendre aussi parfois dans les personnes qui viennent pousser la porte du Secours catholique, elle se déconstruit assez rapidement quand on rencontre vraiment ces personnes. Et moi, j'ai plein de belles histoires de personnes qui sont arrivées de l'étranger, qui, après des années de galère, certes, où ça n'a pas été simple, aujourd'hui ont fondé une famille, travaillent et reviennent et sont bénévoles au Secours catholique parce qu'ils ont envie de participer aussi à leur tour à l'accueil des plus vulnérables. Donc je crois que c'est très important de pouvoir discuter avec les personnes, comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Les personnes qui viennent de l'étranger, toutes celles à qui moi je parle, elles sont vraiment parties, contraintes et forcées, dans une grande souffrance de devoir laisser leur pays. C'est pas de gaieté de cœur et c'est voilà. Et ils ont traversé des choses terribles. Et s'ils sont là aujourd'hui, je n'ai pas rencontré de bénévoles au Secours catholique qui, après avoir rencontré une personne, me disent « non, il faut qu'il retourne chez lui ». Évidemment, ils ont leur place ici.
Ouais, c'est l'action qui vous a permis de comprendre ça. Vincent Picard, vous évoquiez tout à l'heure les couloirs humanitaires. On peut y revenir deux minutes parce que là aussi, les personnes que vous faites passer par couloir humanitaire, c'est de toute façon des familles qui avaient décidé de venir, simplement au lieu de prendre le bateau, au lieu de franchir les différentes frontières et de traverser tous les pays, elles le font d'une autre manière. Vous les écoutez, vous les entendez, vous examinez leur situation dans le pays. Alors pas toujours d'origine, mais en tout cas dans des pays qui, comme le Liban par exemple, qui vont dans lesquels elles sont réfugiées, pour qu'on comprenne bien. Est-ce que oui, ça veut dire, pour répondre à la question de l'auditrice, pardon, que une fois qu'elles arrivent en France, leur accueil est davantage garanti?
Oui, je dirais que accueillir c'est une responsabilité et en effet faut le faire bien et donc c'est ce qu'on essaie de faire. On anticipe l'arrivée de chaque famille en repérant un lieu et surtout un collectif d'accueil citoyen d'hommes et de femmes paroissiens ou autres qui souhaitent accueillir. On a accueilli dans plus de 40 départements en France. Et l'arrivée des familles est précédée par un travail d'identification au Liban où nous rencontrons les familles plusieurs fois pour voir lesquelles sont les plus vulnérables. Hein. C'est les familles les plus vulnérables que nous faisons venir, des familles qui sont en danger, dans des camps de réfugiés, dans des situations où les enfants ne sont pas scolarisés, où il y a des personnes qui ont des pathologies, qui ont besoin de soins et qui risquent de se retrouver sur les bateaux avec les drames en mer Méditerranée que nous connaissons depuis des années maintenant et qui continuent. Là aussi, je parlais de l'oubli des guerres au début de l'émission, mais qui parle aujourd'hui des morts en Méditerranée qui continuent à l'heure actuelle. Et c'est vraiment, on a entendu le cri de cette auditrice, il faut entendre tous les cris. Et c'est cette myopie et cette sourdité aussi que je dénonce et que et vraiment à laquelle il faut mettre fin. Ces morts en Méditerranée sont un scandale. On ne peut pas construire une Europe fière de ses valeurs et tranquille en ayant un cimetière à ses portes. Et ça a été l'origine des couloirs humanitaires, de dire alors qu'est-ce qu'on fait, on est indifférent à ça, on est impuissant, on peut vraiment rien faire contre ça? Eh bien si, on peut faire quelque chose. Et on a sauvé comme ça des centaines et des centaines de familles. On va le rappeler en septembre prochain. Il y aura une table ronde sur les couloirs humanitaires dans le cadre d'une grande rencontre internationale pour la paix que Santé Gidio organise à l'invitation aussi du diocèse de Paris. Ce sera à Paris pour la première fois. C'est une rencontre qu'on fait depuis 38 ans, qui avait commencé à Assise avec une intuition prophétique de Jean-Paul II. Sûrement les auditeurs se souviennent de cette image de la rencontre d'Assise avec les responsables religieux réunis autour de Jean-Paul II. Eh bien, on va se réunir de nouveau et on parlera aussi des couloirs humanitaires et de tout ce qu'on fait en termes de fraternité, parce que tout ça, c'est vraiment pour la paix, pour construire la paix.
Et on n'a pas fini d'épuiser ce sujet. Merci vraiment à tous les trois, c'est passé très vite. Hein. C'est le principe de cette émission ce matin, on divise les thématiques ce matin. Fanélie Carré-Comte de la CIMAD, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tout comme Vincent Picard de Sainte-Egidio France et Audrey Mingui du Secours Catholique France. Dans un instant, Madeleine, deuxième sujet, on va parler de la transmission à travers la famille, la vie de couple, l'école, la société, la religion. Vous réagissez au 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense, donc j'agis, une émission un peu spéciale à quelques jours du premier tour des élections législatives. Bien loin des discours politiques, on donne la parole, vous l'entendez ce matin, aux associations chrétiennes engagées sur le terrain autour de sujets différents. On a parlé de la question de la migration, on évoquera la justice sociale à partir de 10h, également l'écologie à 10h30 et dans un instant la question de la transmission par la famille, par l'école également, la vie de couple, la société, la religion. Bref, comment transmettre dans le temps ce que nous avons reçu de meilleur et est-ce que la société peut nous y aider? Vous avez la parole pour réagir dès maintenant au 04 72 38 20 23. On prendra le temps de vous accueillir après cette chanson.
Ici les petites Ralph Lauren en Austin longent la Seine et nous font des signes. Là les capuches dandinent en galerie marchande, rêvant de grosses limousines allemandes. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout pareil. Ici et là, ici et là. Tu sautes le péril. L'escalator est en panne, on tourne dans la ZUP. Fantin, la tour et deux gars, allez va au musée. En bas de la tour, y'a deux gars, allez va t'amuser. Même si c'est le même soleil, c'est pas du tout.
vous aimez bien Souchon, Alain Souchon, Madeleine Vatel?
Ah oui, j'aime beaucoup, ouais.
Bah très bien, c'était Ici et là, extrait de son album I'm 50s.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et on l'a dit tout à l'heure, hein, on attaque notre deuxième sujet qui concerne, excusez-moi, on est un peu fatigué ce matin, on a beaucoup travaillé avec pour cette émission. La transmission, donc à travers la famille, Madeleine, la vie de couple, l'école, la société, la religion, est-ce que l'individualisme a pris trop de place? On va en parler avec nos deux invités.
Avec Christiane Béhagle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère conjugale au Clair Amour et Famille. C'est une association qui aborde tous les aspects de la vie de famille. Avec nous également Jean-Michel Dunant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de la Communion Béthanie qui regroupe des religieux, des laïcs, des parents qui souhaitent accompagner par la prière et le service les personnes homosexuelles ou transgenres. Merci au studio de Montpellier qui vous accueille ce matin. Alors, avec une première question.
Oui, pour vous, Jean-Michel Dunant, comment vous vivez cette période?
Ah, ça c'est une question qui me rejoint très profondément ce matin. Je crois que je la vis à la fois paisiblement et de manière très angoissée. Les deux cohabitant en moi, si je puis dire. Paisiblement parce que j'essaye de garder le cœur axé, le cœur accroché, si je puis dire, dans la prière, la méditation, le silence, la prise de recul. Et angoissé parce que j'entends, enfin en tout cas j'essaye d'écouter beaucoup d'angoisse et ces angoisses me traversent aussi de part en part, des peurs, des inquiétudes et j'essaye de ne pas me laisser déborder par ce moment qui pourrait effectivement être très 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 anxiogène. Voilà où j'en suis un peu ce matin. Mais surtout, j'essaye de m'accrocher aux petits détails qui font la joie de vivre. Là, vous y faisiez allusion dans les studios de RCF Maguelone Hérault et je suis venu à pied, j'ai traversé des jardins publics et je regarde la nature s'éveiller, je regarde les personnes vivre, promener leurs chiens, enfin des petites choses. Vous savez, Véronique Margron, que vous connaissez toutes et tous, dominicaine, présidente de la conférence des religieux et religieuses de France, provinciale de sa congrégation dominicaine, dit cette phrase très belle. Elle dit « L'évangile est pétri de ce soin du minuscule parce que le minuscule n'est jamais dérisoire ». Voilà, je crois que c'est l'heure grave, l'heure intense de s'attacher à l'essentiel de l'évangile de Jésus.
Christiane Béhagle, même question. Comment est-ce que vous vivez cette période un peu particulière?
Mais je vais repartir de la dernière phrase là qui m'interpelle, qui est de dire se recentrer sur l'essentiel. Je suis pas sûre que nous traversions en ce moment une période dramatique. C'est une période où il y a des choix à faire, mais ces choix résultent quand même d'une évolution qu'on voyait venir. Oui. On peut pas dire qu'on est complètement étonné de ce qui se passe. Nous-mêmes au Clair, qui sommes en prise directe avec les jeunes, on voit bien qu'il y a des mouvements, il y a des interrogations, et que les parents sont amenés de plus en plus à s'occuper de leurs enfants. Et donc, je pense que c'est ce mouvement qui simplement s'accentue. C'est comme ça que je le vois, en tout cas.
Allez, on va accueillir tout de suite Sébastien au 04 72 38 20 23. Sébastien, bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'accueillir. Je vous félicite pour la qualité de vos sujets et plutôt des intervenants que vous recevez chaque jour. Voilà, merci en tout cas de votre action. Moi, je souhaitais intervenir en tant que parent, hein, j'ai trois enfants, donc on a une famille plutôt unie, hein, même si on n'a pas de famille proche. On nous fait remarquer souvent qu'on est très à l'écoute de nos enfants, très proches, et je trouve que c'est un lien essentiel que l'on tend à perdre Pourquoi ? Parce que aujourd'hui tous les parents travaillent, l'autorité ne se fait pas forcément sentir. Alors encore une fois, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, mais je suis intraitable sur les notions de politesse et de respect vis-à-vis d'autrui. Je pense que si je peux me permettre, si tout le monde en faisait autant, ça pourrait un peu souder plus la société. Et aujourd'hui, je trouve ce que l'on peut attendre de nos politiques, alors certes, c'est de nous donner des droits, hein, vous en avez parlé dans le sujet au préalable, mais aussi peut-être de rappeler plus régulièrement aux parents, aux adultes, en tout cas que nous sommes responsables, les plus jeunes, que l'on a des devoirs. Et les devoirs, c'est quoi ? C'est un devoir quotidien. Mmh. Il ne s'agit pas d'aller acheter une paire de baskets à 150 ou 200 euros parce que le petit copain l'a même et qu'on ne veut pas être stigmatisé entre guillemets à l'école. Mais il s'agit d'être juste, ce qui nous semble être bon pour faire société. Voilà, c'est le grand mot à la mode, hein, et vos interlocuteurs l'ont aussi tout à l'heure.
Oui.
Voilà, on a des droits, des devoirs. Et si nous, en tant qu'adultes, on ne s'investit pas ou que l'on baisse les bras, ça peut vite, effectivement, ça peut vite dévier vers de l'isolement. C'est pas bon.
Eh ben merci beaucoup Sébastien, vraiment ça donne beaucoup de matière pour continuer cette émission. Merci Sébastien de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Christiane Béac, je me tourne vers vous plutôt sur les parents, sur la place des parents. Est-ce que vous avez le sentiment que cette place n'est pas acquise ?
Non, elle n'est jamais acquise, mais elle est essentielle. Je me disais, il y avait quelque chose aussi sur une belle expression tout à l'heure de votre autre correspondant qui parlait des soins du minuscule. Bon, mais rappelez-vous que le pape Jean-Paul II nous disait que la famille, c'est la première cellule de l'Église. Eh bien, je pense que c'est aussi la première cellule de la société. Et donc, si cette première cellule ne se construit pas bien, si elle est déficiente, tout le reste va avoir des conséquences négatives. Donc je crois qu'il faut que les parents ne baissent absolument pas les bras et au contraire reprennent conscience du fait que c'est eux qui sont vraiment les premiers à transmettre quelque chose à leurs enfants et que ça va irriguer. Il faut pas attendre le coup de baguette magique que va nous donner un gouvernement quel qu'il soit. C'est pas vrai, ça peut aider bien sûr, mais notre responsabilité en tant que parents, elle ne changera pas. Mmh. Elle doit vraiment être au plus près des soins qu'on donne aux enfants.
Jean-Michel Dunon, dans la question de notre invité, il y avait de notre auditeur, il y avait Sébastien, la question de l'autorité qui était posée. D'après vous, est-ce que c'est d'où doit-elle venir cette autorité ? Comment l'établir ? À partir de quoi ?
Il faut, je pense, faire une grande distinction entre ce qui pourrait être l'autoritarisme et l'autorité. Mmh. L'autoritarisme, c'est une prise de pouvoir, pour faire simple et peut-être un peu simpliste. L'autorité, en tout cas, telle qu'elle est exprimée dans les textes évangéliques, c'est une puissance qui vient de l'intérieur. Et quand certains auditeurs, certains proches de Jésus disent « Mais lui, il enseigne pas comme les répétiteurs qui ne font que répéter, mais il a une autorité. » Qu'est-ce qu'il discerne en Jésus ? Il discerne en Jésus un être qui provoquent leur propre exode, c'est-à-dire leur propre sortie d'eux-mêmes pour une liberté intérieure. C'est ça la véritable autorité. C'est ce qui permet à l'autre de vivre son exode et qui permet à l'autre de croître. Alors, vous m'avez présenté comme le fondateur de la communion Béthanie au service de toutes et de tous et en particulier au service des personnes homosensibles et transgenres, mais je suis aussi adjoint en pastoral scolaire depuis bientôt 30 ans dans un établissement catholique d'enseignement, Notre-Dame de la Merci à Montpellier. Et bien sûr, et tout est lié, comme dirait le pape François dans un autre domaine, bien sûr que je suis très très sensible à cette dimension de l'autorité. Et l'autorité, c'est pas un professeur qui rentre dans une classe et qui crie « taisez-vous, autrement vous avez 4 heures de colle ». Ça, c'est de l'autoritarisme, si je puis dire. L'autorité et les jeunes, la génération qui est là, la génération qui arrive est très sensible aux adultes qui font autorité, qui ont non pas un pouvoir, mais une puissance intérieure. Et c'est pourquoi, avec le pape François de nouveau, je plaide pour l'intergénérationnel. Les jeunes ont énormément besoin autour d'eux d'adultes. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le nombre de jeunes, pardonnez-moi, je dis parfois de gamins, mais c'est tellement affectueux de ma part, qui ont un lien essentiel et vivifiant et fondateur avec leurs grands-parents. D'ailleurs, bien souvent, lorsque les grands-parents sont atteints de maladies, voire même décèdent, c'est parfois un véritable tsunami chez eux parce qu'ils perdent un visage, une parole d'autorité, dans le sens évangélique du terme. Quelqu'un qui m'aide à grandir, quelqu'un qui m'aide à vivre mon exode vers ma liberté intérieure. Et je ferai vraiment la distinction aujourd'hui, en particulier dans ce moment national, entre le pouvoir et la puissance. C'est tout à fait différent, si je puis dire. En tout cas, c'est à distinguer fondamentalement.
Christiane Béagle, sur la question de l'autorité, justement, comment ça se passe quand la famille est fragilisée? Comment faire?
L'autorité, malgré tout, elle doit être exercée. Et la difficulté, c'est qu'elle doit être exercée au quotidien. Quand on reprend le mot, par exemple, d'éduquer, éduquer, c'est faire grandir. Et ça passe par des petits riens, par des petites attentions. Il ne faut pas non plus que les parents se découragent et se disent « voilà, je suis obligée de travailler, donc j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes enfants ». C'est vrai que le temps, c'est une donnée importante, mais ça peut être remplacé par beaucoup de bienveillance, beaucoup de dialogue. Et j'entendais l'auditeur, et souvent on a des parents qui disent « mais quand on rentre, on est crevé et on n'a pas le temps de s'occuper des enfants ». Mais les enfants le comprennent très bien. Mais si, une fois arrivé à la maison, il y a cette parole quand même d'autorité, c'est-à-dire que chacun un petit peu fasse famille, mais à sa place, qu'il y ait un échange entre la vitalité de l'enfant et puis l'autorité des parents. Vous savez, c'est souvent un exemple qu'on utilise de l'eau qui coule, de la rivière qui coule entre deux rives. L'autorité, ce sont les rives. Si vous mettez des rives trop serrées, eh bien l'eau devient comme un torrent tumultueux. Ça veut dire que les enfants, eh bien, ils vont avoir envie de réagir ils sont incontrôlables. Et par contre, si les rives sont beaucoup plus éloignées, eh bien à ce moment-là, l'eau peut se répandre. Ça fait des inondations. C'est également une catastrophe. Donc c'est quelque chose de difficile, l'autorité. Mais elle doit être présente et présente au bon moment, ce qui est difficile.
Alors, on parle beaucoup dans les programmes politiques de l'intérêt général et de construire une société. Est-ce que vous diriez que l'individualité a pris trop de place? Comment est-ce que, justement, on parlait des cellules familiales, comment est-ce que on peut continuer, et intergénérationnel, comment est-ce qu'on peut continuer à transmettre au-delà de, parfois, une fiscalité ou une politique qui vient un petit peu perturber ces transmissions Christine Béagle?
Écoutez, on n'est pas du tout sur le même registre. Hein. En tant que grands-parents, bien sûr, vous pouvez avoir le souci de transmettre quelque chose aux enfants. Mais la transmission, elle se fait par, je ne sais pas, ça peut être par de la poésie, ça peut être par une lecture, ça peut être, vous voyez, quelque chose que les enfants n'ont pas l'habitude de recevoir de leurs parents, parce que justement les parents, ils sont dans le quotidien, ils sont obligés de les nourrir, de leur organiser des... Quelquefois on a l'impression qu'on est dans un hall de gare, dans des grandes familles, là, au moment des départs en vacances, il y a les horaires, il y a les camps, il y a les machins, c'est un agenda qui est bien rempli. Le grand-parent, dans sa transmission, justement, prend ce recul et peut-être aller plus facilement à l'essentiel. Et c'est ça, je pense, qui va intéresser les jeunes qui les interroge. Ben récemment, je fêtais mon anniversaire de mariage et on était au sein d'une famille, j'ai des petits-enfants, et ils m'ont demandé comment j'avais rencontré, c'est la question classique, comment j'avais rencontré leur grand-père. Mais avec un petit peu d'humour, mais ils se tordaient littéralement de rire. Et je me dis, rien que la possibilité de leur proposer une fête qui montre qu'un engagement dans la vie, ça peut valoir quelque chose, et tout simplement parce que on fête un anniversaire de mariage avec un nombre d'années qui commence à devenir important, ça c'est une transmission. Donc faut pas non plus faut essayer, comme dit votre autre invité, de faire parler son cœur. Et ça va venir, tout simplement, je pense.
Jean-Michel Dunant, Jean-François Dunant, pardon. Est-ce que justement c'est
la Jean-Michel, question de la... C'est bien Jean-Michel.
Ah Jean-Michel, ouais, pardon. Ouais. Est-ce que c'est bien la fidélité justement qui est questionnée et qui peut être parfois un peu bousculée par l'environnement sociétal? Et est-ce qu'un député a vraiment un pouvoir sur cette question de la fidélité, de la cultiver, de faire passer ces messages-là?
Alors, ce n'est pas dans mon domaine de compétence de vous répondre sur cette question-là. En revanche, j'appelle de tous mes voeux les femmes et les hommes au service de la cité, donc les femmes et les hommes politiques, à être dans une certaine cohérence. Parce que la génération qui est là, la génération qui arrive, nous regarde et elle a des limites, comme toute génération, comme la vôtre, comme la mienne, elle a des carences. Mais elle a une très grande qualité, c'est qu'elle est assoiffée de cohérence. Et elle voit, elle discerne lorsque ça dysfonctionne. Et je pense que si nous voulons avoir une parole d'autorité, pour reprendre la thématique précédente, il nous faut tendre vers une cohérence et offrir dans notre société des espaces que j'appellerais traditionnel. Je m'explique. Je suis catholique romain et j'en suis très fier. Pourquoi j'en suis très fier? Parce que dans la grande tradition catholique romaine, il y a ce que l'on appelle la disputatio. La disputatio, qu'est-ce que c'est? C'est l'échange. C'est le fait que l'autre en face de moi n'est pas un adversaire à tuer, à lui dire « je te cloue le bec ». Non, l'autre en face de moi a quelque chose à m'apporter et à donner dans le débat public pour envisager ensemble de créer un nous. Et ça, c'est la grande tradition théologique, doctrinale de l'Église catholique romaine. Et c'est comme ça que se construit sa doctrine. C'est comme ça que se construit sa théologie. Donc, il faut réinsuffler au sein de notre société des débats où la subtilité, l'écoute de l'autre, c'est très exigeant, est toute leur place. Et surtout, réinjecter cette dimension tellement importante et je dirais vivifiante de la nuance. Parce que les sujets ne se résolvent pas, me semble-t-il, par un like ou un non-like, par un commentaire du style « tu dis ça donc t'es hérétique » comme je peux en recevoir moi-même sur certains réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. T'es un hérétique, t'es un damné. Ça, si vous voulez, ce sont des slogans publicitaires d'estrade qui peuvent faire du mal et on le voit bien aujourd'hui. Réinjecter de la nuance, réinjecter de la subtilité et surtout lutter contre tous les raccourcis. L'autre a une parole constructive tout autant que la mienne, même si elle me déplace encore une fois. Mais ça, c'est l'exigence de l'évangile, encore une fois.
On va retourner au standard, au 04 72 38 20 23, où nous attend May. Bonjour May.
Bonjour Malchior.
On vous écoute.
Alors, je suis très partagée par rapport à l'autorité, parce que je connais des familles qui sont chrétiennes et musulmanes en même temps, des mamans qui sont séparées et qui sont très bienveillantes et qui sont à l'écoute de leurs enfants, mais qui sont en face d'un papa qui est musulman et qui impose le voile à la petite, à leur fille par exemple, le papa il impose le voile, dès que la petite sort de l'école. Et la maman, bien sûr, elle a honte de ça, parce qu'elle, elle est catholique, elle est chrétienne. Elle a beau aimer sa fille, qui a maintenant 18 ans, et qui est capable de comprendre, qui est pleine de nuances, qui est pleine de bienveillance, mais elle a son père en face d'elle, qui est quand même très strict et rigide. Et elle a aussi une maman qui essaie de lui insuffler malgré tout, avec un partage très simple, très clair, très franc, son autorité, entre guillemets, sans autoritarisme, bien sûr, mais c'est difficile à elle d'aimer sa petite et de voir sa petite avec un voile imposé par le père.
Ben écoutez, c'est très intéressant, mais on est vraiment dans notre sujet de la transmission ce matin, donc dans je pense donc j'agis, donc ça tombe bien. Christiane Béagle, je me tourne vers vous parce que là ça touche à la religion et également à cette notion de transmission quand même. Est-ce que ça tient de la sphère publique privée ou alors ça tient d'une affaire publique? Est-ce qu'il faut légiférer ou rester dans l'intime?
Moi, je pense qu'il faut rester dans l'intime. Il y a un certain nombre de choses que chaque parent a à cœur de transmettre. Là, dans l'exemple de votre auditrice, on est un peu dans l'extrême, mais et la petite jeune fille dont on parle risque d'être un petit peu tiraillée entre ses parents. Mais il peut y avoir aussi des expériences très riches pour les enfants qui accueillent des cultures différentes. Je pense que là, les lois françaises permettent de faire la distinction entre ce qu'on appelle la sphère publique, où on essaye de fonder des repères communs, et la sphère privée, où là, justement, les parents peuvent exprimer les raisons pour lesquelles ils peuvent ne pas être d'accord avec certains éléments de cette société. Et c'est là où je pense que on est sur un point difficile quand votre autre intervenant parlait de cohérence. Parce que, justement, la cohérence dans nos sociétés est de plus en plus difficile à obtenir. Alors, bien sûr, c'est un défi, et je suis d'accord avec lui pour dire que le seul moyen, c'est d'en discuter. Hein, et le disputatio dont on parlait se comprendrait mal à notre époque, puisque dispute, on entend dispute et pas du tout discussion. C'est ce qui serait dommage. Mais il a bien été expliqué qu'il fallait y mettre des nuances. Mais je suis moi-même un peu découragée quand on suit les débats actuellement en politique. On ne peut pas demander, avec le format actuel des discussions sur des plateaux télévisés, d'apporter des nuances. C'est carrément impossible. Donc pour moi, c'est le rôle, encore une fois, des parents. Moi, je pense que notre société trouvera ses ressorts dans l'intime, justement, au cœur des familles, et pas au cœur des partis politiques. En tout cas, je suis de ce côté-là un peu plus découragée.
Jean-Michel Dunant, une réaction?
Alors, je rejoins tout à fait votre autre invité. Je suis parfois moi-même, je partage parfois moi-même cette, entre guillemets, désespérance devant ce que l'on ne peut plus appeler des débats. D'ailleurs, il suffit de passer la frontière, et moi je suis savoyard d'origine, et d'aller en Suisse, par exemple, pour se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas des débats politiques en Suisse. Vous voyez, dans un débat politique en Suisse, on ne coupe jamais la parole à son interlocuteur. C'est assez impressionnant, et quand vous entendez ça pour la première fois dans une station de radio suisse, vous êtes dans un moment où vous vous dites, mais je vis un rêve éveillé. Bon, je ferme la parenthèse, si je puis dire. Non, je crois que je rejoins aussi votre autre invité pour dire que c'est dans la sphère de l'intime, et je mettrai dans cette sphère de l'intime, au risque de vous surprendre, l'école dans laquelle je travaille, l'école dans laquelle j'essaye de servir, doit être ce lieu sécur où l'on peut, me semble-t-il, dans le groupe classe, en créant, comme nous l'avons fait à Notre-Dame-de-la-Merci à Montpellier, des agora, c'est-à-dire des lieux où la parole est respectée, où l'on apprend à parler aussi en public en respectant la parole de l'autre, en injectant encore une fois de la nuance, en acceptant la modération d'une parole. L'école doit, me semble-t-il, être le lieu de formation très 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 exigeante de ces nuances, de cette disputation dont je parle. Et je rajouterai aussi que l'avenir, me semble-t-il, je ne suis pas, et je ne me prétends pas être un prophète qui voit dans le temps, mais l'avenir de l'église, de la grande église dont parlait frère Roger de Thésée, c'est-à-dire l'église dans le sens œcuménique de toutes les confessions chrétiennes, c'est précisément les petites communautés de base, comme l'on dit en Amérique latine, dans laquelle on lit, on relit, on prie sa vie à la lumière de l'évangile. Vous voyez, je reviens du diocèse d'Orléans, où j'ai été invité par Jacques Blacard, l'évêque d'Orléans, le week-end dernier, pour animer un pèlerinage pour le service des personnes homosensibles et de leurs proches. Nous avons vécu un moment de petite communauté de base, où nous avons marché le long de la Loire à la lumière de l'évangile. Cela est très modeste, cela rejoint le minuscule dont parle Véronique Margron, mais cela, me semble-t-il, est l'avenir vivifiant pour notre société et pour l'Église, me semble-t-il.
Merci beaucoup vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Jean-Michel Dunant, fondateur de la communion Bethany. Merci à l'équipe de Montpellier qui vous accueille en studio. Merci Christiane Béagle, également conseillère conjugale au Clair Amour et Famille. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait. Madeleine, tout va bien ?
Tout va bien.
On va continuer dans un instant pour notre troisième plateau. On va parler justice sociale et économie. On parlera de la situation des entreprises également avec toujours vos témoignages, vos réactions. Le standard est ouvert, ça ne change rien. Au 04 72 38 20 23. À tout de suite.